Alors, et comme on disait hier, pas vrai Luc, on n'est pas en vacances, on est en week-end. Les vacances, c'est demain. Non, c'est super, oui. C'est vrai que si on fait la moyenne d'âge ce matin, c'est génial. On a tous rajeuni. C'est excellent. Beaucoup sont absents ce matin, hein. Ils sont dans diverses activités, et c'est super de voir que l'Église vit énormément de choses. Mais je voulais... le message de ce matin, je pense que c'est un message que ça serait, il serait bien que tout le monde écoute, c'est pour tous, forcément, vu qu'on va ouvrir la parole de Dieu. Mais je voudrais insister encore sur le fait que c'est peut-être aussi un message particulier pour la jeune génération. C'est vous. Parfois, on pense quand on est jeune, et je crois que la société travaille beaucoup à ça, qu'on n'est pas responsable. On se met un peu en retrait et on laisse faire. On laisse faire les grands, on laisse faire les adultes. Et nous, on verra. On verra plus tard, quand on aura fini nos études, ou quand on aura notre emploi, ou quand on sera marié, ou quand. Et je crois que le Seigneur me rappelait ce passage très significatif, très marquant dans l'Ancien Testament. S'il n'y avait pas eu Josué et Caleb, eh bien, il n'y aurait pas eu de nouvelle génération. Et vous êtes la nouvelle génération. Vous êtes ceux qui allez porter quelque chose que nous, on ne portera pas. Et j'ai envie de vous responsabiliser ce matin. Responsabilisez-vous, les jeunes, face à la parole de Dieu et prenez sincèrement et fidèlement vos responsabilités face à ce que Dieu vous demande, comme on essaye de le faire, nous, après plein d'années de conversion. Alors ce matin, si vous avez vos Bibles, vous pouvez les ouvrir. Vos smartphones, c'est pareil. Je vais afficher les versets, mais on va ouvrir dans Éphésiens 4, du verset 17 jusqu'à la fin. Et on va peut-être juste commencer par lire le texte. Voici donc, alors c'est l'apôtre Paul qui écrit, et voilà ce qu'il dit. « Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. » Là, je crois qu'il veut qu'on écoute, hein, quand il dit deux fois « Voilà ce que je dis, voilà ce que je déclare. » « C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. On continue. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Encore une. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné. Prions. Seigneur, merci pour ta parole qui est juste extraordinaire, qui est ce trésor, Seigneur, que mon âme recherche, qui est cette lampe, Seigneur, dont j'ai besoin pour m'éclairer, Seigneur, dans ce monde où tout est obscurci, Seigneur, autour de nous. Et je prie ce matin, Seigneur, que tu viennes briller au milieu de nous par ta parole, que tu viennes éclairer, Seigneur, nos cœurs, nos pensées, et que nous te rendions gloire, Seigneur. Amen. Amen. Alors, les spécialistes de la lettre aux Éphésiens pensent que cette lettre, Paul l'a pas écrite dans le même sens que les autres, dans le sens où il répond pas forcément à une problématique directe qui se passe dans tel ou tel coin. Mais alors ça ne veut pas dire bien sûr qu'il n'y avait pas de problème à Éphèse, hein. Comme partout, il devait y avoir, l'Église devait avoir son lot de problèmes, mais elle est plutôt une sorte de recommandation générale sur la vie en tant que chrétien. Et on pense que très certainement, ça fait partie des lettres qui étaient écrites pour être ce qu'on appelle circulaire, c'est-à-dire qu'elle, c'est une lettre qui a circulé de communauté en communauté pour être lue par l'ensemble des églises dont Paul avait la charge. On pense aussi que la lettre aux Colossiens, donc une épître aussi que Paul a écrite, elle a été écrite en même temps. Et donc c'est assez intéressant de lire les deux lettres, l'épître aux Éphésiens et aux Colossiens, d'un seul jet, et on se rend compte un peu des similitudes qui sont là, et en même temps ce sur quoi Paul va appuyer. Alors on va reprendre du verset 19, si tu peux, oui, revenir en arrière, du verset 17 au verset 19. Alors il dit « Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. » Alors je sais que dans la pensée moderne ou post-moderne d'aujourd'hui, il faut faire attention, il ne faut pas stigmatiser, il ne faut pas faire de séparation. Non, on est tous ensemble, c'est l'humanité est tout ensemble. Eh bien, je crois que la Bible ne fait pas cela. Et elle va tracer une ligne de démarcation assez nette. Soit on est à Christ, on lui appartient et on est sauvé, on est avec Dieu. Soit nous ne sommes pas à Christ, c'est ce que la Bible appelle les païens. Et à ce moment-là, on ne vit pas selon Dieu. Il y a une ligne assez nette. Et Paul la met à l'encre rouge quelque part. Vous ne devez plus marcher comme les païens. Et Paul se met à exposer qu'est-ce que c'est que, au final, cette vie païenne. Et il va dire un certain nombre de choses. Il va dire de ne pas marcher selon la vanité de leur pensée. Littéralement, c'est de ne pas marcher selon la perversité et la non-vérité de leur intelligence. N'ayant pas reçu forcément la vérité de Christ, eh bien, ils demeurent dans le mensonge. Et c'est pas juste le fait de mentir, mais c'est ce mensonge général qui régit le monde et qui s'oppose à Dieu et qui s'oppose à l'adoration du Dieu véritable. Paul va dire aussi ensuite de ne pas vivre sans Dieu, ce que font les païens, ils vivent sans Dieu et sans sa parole. Il va utiliser les termes « ils sont étrangers et ils sont ignorants ». La parole de Dieu est une lampe, une vraie lampe, qui éclaire le chemin sur lequel nous marchons. Et sans cette lumière, nous demeurons dans l'obscurité. Si on reste ignorant, si on reste étranger à ce que Dieu dit, eh bien, on demeure dans l'obscurité, nous dit l'apôtre Paul. Et ça rappelle bien sûr cette parole de Jésus dans Luc 6, au verset 39, et il va dire « Un aveugle peut-il conduire un aveugle ? Ne tomberont-ils pas tous les deux dans une fosse ?» Sans Dieu, nous sommes tous des aveugles, tout le monde. Sans sa parole, l'humanité se dirige tout droit vers une fosse. Mais celle-là, elle est énorme. C'est ce que la Bible appellera la géhenne, c'est ce que communément on appelle l'enfer. C'est cette fosse que si on tombe dedans, eh bien on ne s'en relèvera jamais. Ensuite, Paul va dire que les païens ont le cœur endurci. Et quand on regarde un peu cette expression dans le Nouveau Testament, bien souvent elle signifie quoi ? Elle signifie ne pas être capable de se repentir, de reconnaître ses fautes, son péché, pour se soumettre à Dieu. Les païens, Paul nous dit, se trouvent un tas d'excuses pour éviter de faire face à face, à leur péché et au jugement de Dieu, de faire face à face à leur culpabilité et la sainteté de Dieu. Ensuite, il va encore plus loin, il va dire qu'ils ont perdu tout sentiment. Waouh ! Littéralement, ça veut dire perdre la sensibilité face à ce qui est douloureux, la souffrance de l'autre. Cela conduit à quoi ? Eh bien, tout simplement à ne plus avoir compassion, ne plus avoir de considération pour l'autre. Il souffre, c'est son problème, c'est pas le mien. Et il finit en parlant de la dissolution, de se livrer à la dissolution. Alors qu'est-ce que c'est ce mot ? Littéralement, c'est se livrer à ce qu'on peut appeler la luxure sans bride. Donc c'est lié à la sexualité, au libertinage, à l'excès à outrance pour commettre toutes sortes d'impuretés. Paul dit, jointe en plus à la cupidité. On va mélanger l'impureté sexuelle avec l'amour de l'argent. Alors on pense toujours avoir, enfin personnellement, de temps en temps je me dis, ah ça y est, là on a touché le fond avec le péché, on ne peut pas aller plus bas, et regret de constater que l'horreur du péché, malheureusement, elle continue son œuvre destructrice dans notre monde. Hier encore, alors qu'on était en train de discuter, j'ai appris qu'il existait quelque chose qui m'a horrifié, et apparemment c'est présent depuis plusieurs années. Il existerait une forme de prostitution infantile chez les collégiens. Et bien sûr, à la faculté aussi, où les enfants vendent leur corps pour des bonnes notes, pour avoir accès à quelque chose. L'excès à outrance de cette dissolution impure, j'ai vraiment l'impression qu'elle n'a pas fini de creuser. Et elle creuse. Quelle horreur! Quelle horreur! Et Paul veut marquer une nette distance avec cela. Et on ne peut pas lui reprocher, je crois. Il va vraiment tirer un trait rouge et il va nous dire, mais qu'avez-vous à voir avec cela? Ne marchez pas comme les païens. Et tout ça, tout ce que Paul décrit, et bien sûr ce n'est pas exhaustif, ça commence avec un fait très particulier, c'est le fait de ne pas adorer Dieu. C'est ça être païen. C'est que je refuse de me prosterner devant le Dieu véritable. Et c'est ce que la Bible appelle l'idolâtrie. Le fait de refuser de se prosterner devant Dieu, qui est le seul Dieu, eh bien, je vais forcément me prosterner devant d'autres choses. Et ce qui est intéressant, c'est que Éphèse, cette grande ville de l'Asie à l'époque, était réputée pour une grande idolâtrie. Je crois que j'ai mis... Tu peux aller à la slide 4. Le temple d'Artémis, dont il y a les ruines hein, encore, ou qui s'appelle aussi Diane d'Éphèse, elle a deux noms, dans la ville d'Éphèse, fait partie de la liste des sept merveilles du monde. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ces sept merveilles du monde, normalement oui. En fait, pour plusieurs auteurs, la plus impressionnante de ces sept merveilles, c'était justement ce temple-là, celle d'Éphèse. Et au IIe siècle avant Jésus-Christ, il y avait un poète qui s'appelait Antipatros de Sidon. Il a écrit et il disait « J'ai posé les yeux sur le rempart de la vaste Babylone, surmontée d'une route pour les chars, sur la statue du Zeus de l'Alphée à Olympie, sur les jardins suspendus de Babylone, sur le colosse du soleil à Rhodes, sur l'énorme travail des hautes pyramides à Gizeh, sur le vaste tombeau de Mosol à Halicarnasse. Mais quand je vis la maison d'Artémis s'élevant jusqu'aux nues, ces autres merveilles perdirent leur éclat et je dis, vois, hormis l'Olympe, jamais le soleil ne vit si grande chose. » Éphèse était bel et bien réputée pour son idolâtrie et en particulier à cette déesse soi-disant. Vivre sans vouer son adoration à Dieu, au Dieu vivant et vrai, je crois que c'est la racine. C'est la racine de tous les maux et de tout le mal que l'humanité peut connaître, de tout le malheur qui s'abat année après année sur les générations. C'est pour cela, d'ailleurs, que forcément on va le recouper avec le premier des commandements de notre Seigneur, qui est... C'est juste pour voir si... Les jeunes, c'est quoi le premier commandement ? Super. Tu adoreras ton Dieu de tout ton cœur, toute ta force, toute ta pensée. Et oui, c'est pour ça que c'est le premier. Parce que tout démarre ici. Tout démarre ici. Et tout au long de l'Ancien Testament, l'idolâtrie était comparée à l'infidélité et à l'impureté sexuelle. Car c'est ce qu'elle engendre, en fait. C'est là où Paul nous amène. Ne pas adorer Dieu nous conduit premièrement dans l'impureté spirituelle, le mensonge, la pensée obscurcie, la dureté de cœur, la convoitise, l'absence de compassion, etc. Et cela, dans un second temps, va nous conduire dans l'impureté aussi physique, la débauche, le libertinage, la colère, les guerres, le meurtre, etc. Voilà pourquoi Paul expose la vie païenne en disant « Vous ne devez pas marcher comme les païens. » Il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas « Regardez-les quand même un peu, vous pouvez imiter. » Non, vous ne devez pas marcher comme eux. Est-ce qu'on peut revenir à la deuxième slide? Et quand on continue, il enchaîne par « Mais vous ». Mais vous. L'opposition est claire. Et qu'est-ce que ça veut dire ce « vous » Eh bien, vous qui adorez Dieu. Vous qui n'êtes plus des païens, ignorants, étrangers, mais qui êtes entrés dans la maison de Dieu pour l'adorer. Ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Paul continue, en fait, son discours en nous donnant la solution pour ne pas marcher comme les païens. La première qu'il va nous proposer, c'est de nous dépouiller. Se dépouiller du vieil homme qui se corrompt. Devenir chrétien, je crois qu'on le répète assez régulièrement, mais c'est tellement important, c'est pas un petit plus qui nous fait du bien. On pense souvent ça dans le monde, mais c'est pas vrai. C'est pas ce petit truc qui rajoutait à ta vie, oh ben va faire que c'est sympa. Donc du coup, ben, tu peux croire, allez, si tu as envie, ça peut pas te faire de mal. C'est pas ça la vie chrétienne. C'est pas ça. Devenir chrétien implique un changement complet de mon ancienne façon de vivre. Cette façon de vivre qui était sans Dieu. Quand Jésus me sauve, il me révèle la personne du Père, la gloire de sa beauté et l'adoration qui lui est due. Voilà ce que fait Jésus quand il vient me sauver. Ma vie, alors, se détourne entièrement du centre sur lequel elle était focalisée et elle se tourne vers Dieu. Et mon but premier devient « je dois lui rendre gloire ». Et ça, c'est un bon curseur dans ma vie. Quel est mon but? Est-ce que mon but est le même que celui des païens? Avoir une belle voiture, une belle maison, un beau travail, une belle femme et des maîtresses aujourd'hui, etc., etc. Ou est-ce que le but de ma vie, c'est de glorifier son nom. On connaît ce magnifique verset de Paul dans Galates 2 où il dit « J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. » Waouh ! Je crois que Paul, il avait changé radicalement aussi quelque chose dans son cœur. Se dépouiller, littéralement, ça veut dire se débarrasser. Ça veut dire jeter au loin, le plus loin que je peux. Et ça, je crois que ça nous encourage, autant les jeunes que les moins jeunes, à ne pas faire de compromis. Ne pas faire de compromis. Alors que la société aujourd'hui nous crie ce compromis. Tout est bien, du moment que ça ne fait pas de mal. C'est bien. Non, Paul nous dit. Non. Moi, je mets une ligne et je la marque au trait rouge. Ne marchez pas comme les païens. Se dépouiller, au contraire, nous encourage à identifier dans nos vies, les amis, ce qui ne glorifie pas Dieu. Et à le prendre de nos vies et à le jeter loin de nos vies. Voilà ce que ça veut dire se dépouiller. Et voilà ce à quoi Paul nous encourage. ne restons pas passifs dans nos canapés pour les plus âgés, sur nos téléphones, les plus jeunes. Comment ça s'appelle ? Slammer ? Scroller ? Pardon ? À scroller et à attendre. Ma vie va changer ? Non, elle ne va pas changer. Et peut-être même que tu vas t'enfoncer plus loin dans ton canapé et dans ton péché ou dans ton téléphone. Paul nous dit, prends ce qui n'est pas bon dans ta vie et jette-le. Arrête de scroller ou de t'asseoir. J'apprends des mots moi aussi. J'y mets un peu d'humour, mais parce que je crois que c'est quelque chose de très profond. Dieu ne prend jamais à la légère le péché dans nos vies. Arrêtons de croire ce mensonge. Ouh là là, j'arrive plus à parler. Arrêtons de croire cela. Dieu ne prend jamais à la légère le péché dans nos vies. Christ est mort, les amis, pour ce péché. Il ne l'a pas pris à la légère. Il a eu les clous plantés dans ses mains. Il est monté sur cette croix. Il a subi l'enfer qui s'est déchaîné, Satan qui est venu. Et il est allé dans le tombeau. Il n'a pas pris à la légère. Dieu ne prend jamais à la légère le péché dans nos vies. Au contraire, il est exigeant. Alors je sais qu'on est dans une église où on parle beaucoup de la grâce de Dieu. Et c'est vrai. Et c'est vrai, Dieu est plein de grâce et de bonté. Mais est-ce que ça enlève le fait qu'il est exigeant ? Ben non. Ben non. Il est exigeant dès le début. Souvent, on n'aime pas lire l'Ancien Testament, hein, parce qu'il est trop exigeant là-dedans. Il y a trop de lois. Et si nous y faisions face à ça? Et si nous prenions la parole de Dieu en entier pour ce qu'elle est, parole de Dieu, et que nous comprenions et que nous réalisions. Ah oui, on ne rigole pas avec Dieu. On ne rigole pas. Il est exigeant. Alors oui, il m'aime. Et oui, je suis aimé de lui. Mais j'aime mon enfant, ça ne veut pas dire que je vais le laisser faire n'importe quoi. Mais parce que j'aime mon enfant, je vais être exigeant avec lui. Ne faisons pas de sa grâce une excuse pour rester dans notre péché ou conserver de mauvaises habitudes, mais rejetons loin, le plus loin possible, le péché que nous pouvons pratiquer. Si loin qu'on pourra dire « ça y est, enfin, je m'en suis débarrassé. » Et là, j'en serai dépouillé. J'ai mis personnellement plus de 10 ans à me débarrasser de la pornographie, à me dépouiller de cette horreur qui a pourri ma vie pendant tant d'années. 10 ans, c'était trop long. Peut-être on ne m'a pas assez secoué quand j'étais plus jeune pour me dire « Oh !» Il y a une vraie ligne de démarcation entre ta vie avec Dieu et ta vie sans Dieu. Dieu est exigeant. Faites pas comme moi, n'attendez pas si longtemps. Paul a commencé donc de dire « séparez-vous de ça » en parlant de l'impureté, de la cupidité. Et c'est ce qu'il continuera de faire, si tu peux changer la slide, du verset 25 au verset 29, en énumérant un certain nombre de choses avec lesquelles on doit renoncer. Il parle de renoncer au mensonge, de renoncer à la colère excessive qui conduit au péché, de renoncer au vol, de renoncer à la paresse. Pas envie d'aller travailler, moi. Je suis bien dans mon canapé. De renoncer à la parole médisante qui va dire du mal de celui qui est à côté. Et bien sûr, cette liste, Paul n'est pas en train d'essayer d'établir une liste exhaustive, mais il y en a, on pourrait l'allonger, tenter plus. Seigneur, on a besoin de toi dans tout ça. Et la deuxième partie de la solution que Paul propose, c'est qu'une fois qu'on s'est dépouillé, qu'on a jeté au loin ces choses-là, eh bien, Paul nous propose de nous habiller. Il dit au verset 24, « Et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. » Quand nous faisons bien ce travail de dépouillement dans nos vies, la deuxième partie proposée par Paul, eh bien, elle paraît juste évidente, inévitable. Une fois que l'on s'est débarrassé de nos façons de vivre qui ne glorifient pas notre Seigneur, il nous faut une nouvelle manière de vivre qui remplace la précédente. Une des caractéristiques majeures de la vie, vous savez c'est quoi ? C'est le mouvement. Quand on est en vie, on bouge. Il nous faut donc maintenant marcher. Paul nous dit, en nouveauté de vie, revêtir cet homme nouveau créé par Dieu. Bien entendu, nous revêtons cet homme au moment de la conversion, de la nouvelle naissance dont Jésus parle, mais je crois qu'il nous appartient à chacun d'entre nous, tout au long de notre vie, de garder ce vêtement sur nous, de l'homme nouveau. De laisser à Dieu toujours sa place, de se questionner régulièrement. Mais quelle place tu as, Seigneur, dans ma vie ? A-t-il vraiment cette place du Sauveur et du Seigneur ? En ce moment, Facebook m'énerve. Non, par rapport au poste, il y a nombre de postes où on va opposer la grâce de Dieu et la sainteté de Dieu. Mais les amis, la Bible ne fait jamais cela. Dieu est le Dieu de toute grâce, mais oh, il est le Dieu trois fois saint. Est-ce qu'on n'est pas en train de lui couper un bras à un moment donné ? Merci, on ne peut pas le faire, mais vous comprenez l'image. Arrêtons d'opposer ce qui en Dieu est uni. Dieu est grâce, oui. Il est plein de miséricorde et de bonté. Il nous a pardonnés en Christ. Mais il demeure le Dieu trois fois saint. Ce Dieu où, quand ma chair me tire là pour aller faire quelque chose qui n'est pas à sa gloire, eh bien je dois trembler devant ce Dieu-là. Ce n'est pas parce qu'il est grâce que je ne dois pas trembler devant lui. Et sa grâce, c'est une grâce, j'allais dire, de pouvoir trembler devant lui. Certains sont morts devant lui, directement, sans avoir cette grâce de pouvoir avoir le cœur qui palpite et qui dit « Seigneur, pardon, je suis en train de faire n'importe quoi ». Notre marche, désormais, ne recherche pas le bien-être ou la gloire de notre propre nombril. Notre marche recherche le plaisir de Dieu, l'amour de sa personne et la gloire de son nom. J'aime mon épouse Irina. C'est pas un scoop, mais... Et c'est quoi la meilleure manière de lui dire et de le démontrer chaque jour? Eh bien, je l'écoute. Je l'observe. J'apprends à aimer ce qu'elle aime. Même si, des fois, j'ai pas trop envie. Du moins au début. Je recherche ce qui lui fait plaisir. Je me réjouis de ses conseils. Je lui laisse la place d'honneur dans la famille. J'apprends petit à petit, je me fais tout petit, à sacrifier ma vie pour elle. Je fais tout pour éviter qu'elle ne soit triste. Je nous pose alors cette question. À quel point est-ce que j'aime Dieu? À quel point est-ce que je lui démontre chaque jour que je l'aime? Est-ce que je l'écoute? Est-ce que j'apprends à aimer ce que lui, il aime, même si ça me déplaît au début? Est-ce que le but de ma vie, c'est vraiment de lui faire plaisir? Est-ce qu'il a la place d'honneur dans ma vie? Est-ce que je suis capable de sacrifier pour lui quelque chose de ma vie? Est-ce que je fais tout pour éviter de l'attrister? Verset 30, Paul nous dira: n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. L'homme nouveau en nous est déjà entré dans l'éternité. C'est ça l'évangile. C'est ça la bonne nouvelle avec Christ. Nous sommes déjà dans l'éternité. Nous sommes déjà ressuscités en Christ et assis dans les lieux célestes. C'est pourquoi Dieu nous a déjà donné la capacité de faire ce qui est juste et ce qui est saint, conformément à la parole de vérité qui vient de lui. La vérité éternelle, Jésus-Christ lui-même, habite en nous par le Saint-Esprit. Nous sommes l'habitation de Dieu en esprit. Et Paul nous dit que le fruit de cette vérité, c'est que en nous va se produire la justice et la sainteté. Excusez-moi, j'ai beaucoup parlé. Je vais aller vers la conclusion. Mais je voudrais quand même finir avec les versets 31 et 32, si tu peux les afficher à Bézisson. Paul va nous dire comment marcher sans attrister le Saint-Esprit. Après avoir donné tout notre amour et démontré chaque jour que nous aimons Dieu, eh bien, Dieu nous encourage maintenant à nous aimer les uns les autres. Que toute forme de méchanceté disparaisse du milieu de vous. La semaine dernière, je crois qu'il y a eu un message, je n'étais pas là, sur l'amertume. Comment se débarrasser de l'amertume? Eh bien, on continue ce matin. Marchons ensemble en ôtant du milieu de nous l'animosité, la colère, la calomnie, quand cela peut se manifester. Adoptons le comportement que Dieu veut pour son Église. Et il y a trois choses que Paul relève ici. Il va dire: soyez bons les uns envers les autres. Qu'est-ce que ça veut dire être bon? Pardon, bienveillant. Oui, tout à fait. Ça, c'est la définition du Larousse. La Bible va dire être doux, soyez doux les uns avec les autres. Soyez dociles les uns avec les autres. Ayez la vertu. La vertu, c'est-à-dire les bonnes valeurs au milieu de vous. Et donc, Larousse nous propose, c'est la disposition de quelqu'un à être bienveillant. Et Paul nous dit, soyez bons les uns envers les autres. La deuxième chose qu'il va nous dire, il dit, soyez compatissants. Qu'est-ce que c'est ça, compatissant? La compassion aujourd'hui, ça existe de moins en moins. On le remplace par l'apathie. C'est un mot qui est très à la mode. Mais Dieu nous appelle à la compassion. Ça veut dire avoir le cœur tendre. Ça veut dire avoir des entrailles profondes. C'est ça la compassion. Mes entrailles sont si profondes que je suis sensible à la souffrance de celui qui est à côté de moi. C'est ça la compassion selon la Bible. Moi, ça me plaît. Moi, ça me plaît. Moi, je veux vivre la communauté avec ces valeurs-là. Et la dernière chose dont Paul nous parle, c'est en se pardonnant réciproquement comme nous avons été pardonnés. Paul conclut ce paragraphe avec le pardon. Il sait ce qu'il vient de dire, ce qu'il vient d'énoncer, c'est un but, une marche. Et il sait que quand on marche ou quand on court, eh bien on trébuche parfois et on tombe. Alors que les chrétiens s'évertuent de toute leur force à être bons et compatissants avec leurs tripes, il arrivera que l'animosité ressurgisse, que la colère l'emporte, qu'une parole médisante sorte de nos bouches. Ce sera alors le bon moment de pardonner, de se demander pardon les uns les autres, en acceptant peut-être à ce moment-là certaines souffrances que ça a pu causer, afin, vous savez quoi, eh bien de ressembler toujours plus à notre Seigneur, qui est venu, qui a laissé sa gloire et qui est venu souffrir pour nous manifester son amour. J'aimerais vous inviter à vous lever si vous voulez bien, et on va passer un petit moment à prier. On peut prendre encore 5 minutes. Oui. Est-ce que je peux demander à la louange, autrement dit à Anthony, de revenir? Après, voilà, si tu as besoin de prendre des temps de prière, tu peux aussi poser ton instrument. C'est pas... Je pense que c'est important de juste passer maintenant quelques minutes face à face avec le Seigneur, ensemble, et face à face avec notre Seigneur. Et j'aimerais juste qu'on laisse le Saint-Esprit, eh bien, agir dans nos cœurs et nous révéler. La première chose sur laquelle je voudrais qu'on passe quelques minutes à prier, c'est sur notre adoration. Où on en est de notre adoration de Dieu? Est-ce qu'il a vraiment cette place d'honneur que je lui dois dans ma vie? Ou est-ce que Dieu, c'est quand j'ai le temps, quand j'ai fini de scroller ou de m'asseoir sur mon canapé devant la télé? Ou est-ce qu'il a vraiment la priorité dans ma vie? Et là, je crois que c'est chacun qui peut répondre à cela dans son cœur, face à Dieu. Peut-être ce matin, il y en a parmi nous qui n'ont jamais rencontré le Seigneur. Ben, c'est le moment. Invite le Seigneur. Demande-lui de se révéler. Et il va le faire. Il va le faire parce qu'il est le Dieu véritable, vivant et vrai, nous dit la Bible. Si tu l'invoques, il va venir te répondre. Père, je veux te demander pardon, Seigneur, pour toutes les fois où je ne te rends pas l'adoration qui t'est due, ou toutes les fois où je remplis ma vie par d'autres priorités qui est celle de d'adorer ton nom, d'adorer ta personne, d'adorer tes, enfin, de remercier, de te remercier pour les œuvres que tu fais. Pardon pour l'infidélité de mon cœur parfois, Seigneur, face à l'adoration et au fait de te rendre la gloire qui t'est due. Ma prière ce matin, c'est vraiment que tu aies la première place dans ma vie. Que je fléchisse le genou devant toi. Et que tu sois mon Seigneur et mon Dieu. Deuxième chose que j'aimerais bien compris ce matin pour, c'est cette notion du dépouillement. De quoi ai-je besoin de me débarrasser? Là, ça concerne tout le monde et moi le premier, bien sûr. Qu'est-ce que j'ai besoin d'arracher de ma vie et de le jeter aussi loin que je peux. Et le moyen de se dépouiller, bien il est simple, c'est la repentance, c'est confesser, c'est dire à Dieu cette chose, c'est demander, implorer son pardon. Et c'est décider fermement de le jeter loin. Et je voudrais qu'on prenne quelques minutes pour cela.
Éclaire mon être entier, Seigneur. Révèle-moi au travers de ta parole qui tu es et qui je suis. Amène-moi, Seigneur, devant toi à genoux, dans la repentance, Seigneur. Merci pour ton amour. Seigneur, je veux être à l'image du Christ. Il est venu comme un homme et nous a montré la voie. Seigneur, je te demande pardon pour tous mes manquements, Seigneur. Mais je m'en remets à toi, à ton esprit qui me guide.
Je suis persuadé que le Seigneur nous a parlé. Si c'est quelque chose de vraiment envahissant, ne restons pas seuls avec cette chose à jeter. Allez voir un responsable de l'Église, votre responsable de groupe de vie. Vous savez qu'on a un super outil aussi qui s'appelle le Sozo. Vous pouvez vous rapprocher de Cathy, tu peux lever la main, peut-être tout le monde ne te connaît pas. Il y a des choses que l'on peut faire pour nous amener plus loin dans cette démarche de se dépouiller et d'être saint pour notre Dieu. Et ça marche, je peux en témoigner, je peux en témoigner. Dieu est notre libérateur. Waouh! On peut sortir de ces choses définitivement. Encore deux choses, on peut? Non, mais c'est toi qui décide. J'aimerais qu'on prie pour la bonté maintenant et les entrailles de compassion. Je crois qu'on en a besoin. Est-ce que je suis sensible à mes frères et sœurs? Est-ce que leur souffrance touche mon cœur si fort que je m'engage à porter leur douleur avec eux? C'est si facile aujourd'hui d'être distant, de penser « Oh, j'ai pas le temps », de se trouver tout un tas d'excuses pour ne pas venir pleurer avec celui qui pleure. Seigneur, nous voulons t'ouvrir notre cœur en grand, Seigneur. Nous savons que la compassion vient de toi, Seigneur. Tu es le Dieu plein de compassion. Et nous te demandons de toucher nos cœurs, Seigneur. Nous désirons ces entrailles de compassion, Seigneur. Cette sensibilité qui fait que notre cœur n'a pas honte de pleurer. Nous ne voulons pas rejeter, Seigneur, la compassion parce que nous voulons rejeter la douleur, Seigneur. Mais nous te demandons ce matin, apprends-nous, Seigneur, à accepter la douleur pour pouvoir souffrir à côté de celui qui souffre, Seigneur, et porter ensemble les fardeaux les uns des autres. que ton esprit travaille nos cœurs, Seigneur. Encore et encore, et que l'on ait toujours plus compassion, Seigneur, les uns des autres. Ça, c'est ton amour manifesté. Et le dernier conseil que Paul nous donne, c'est de nous pardonner. Et peut-être, on ne va pas le faire forcément maintenant, mais si je dois pardonner à quelqu'un, ben que je le fasse, sans attendre, promptement, avant de faire autre chose, même quelque chose qui est censé être important. Le pardon est une des choses que l'on doit mettre en haut de nos listes. Notre cœur doit être prompt à pardonner. Pas d'amertume contre un frère ou contre une sœur. Et Jésus va même nous pousser plus loin en disant, si toi tu sais que ton frère a quelque chose contre toi, va le trouver. Toi, t'es celui contre qui on a pesté, ben, va le trouver. Pourquoi ? Parce que le pardon est primordial. Et Paul dit pourquoi ? Pourquoi ? Parce que le Seigneur nous a pardonné. Si vous avez besoin d'une seule raison pour pardonner, c'est celle-là. Tu pardonnes pas pour faire justice. Tu pardonnes parce que le Seigneur t'a pardonné. Amen.